avant. On va commencer par Ekshvi, le 7e chapitre. Donc le 7e chapitre, c'est page. Ici, c'est page. Voilà. C'est page 38. Donc on va commencer par Ekshvi, le 7e chapitre. Et. Bon, messieurs. Et depuis le 7e chapitre jusqu'à la fin jusqu'à la fin du traité Baba Kama, donc jusqu'au 10e chapitre, on va avoir une ligne droite qui va nous parler des dinim de vol.
Oui.
Parce que la pratique, on a parlé récemment dans la Lachot du Rambam de l'interdiction de voler. Et vous allez voir que c'est très compliqué. C'est pas si simple que ça, voler, pas voler, etc.
Voler, emprunter.
On verra, il y a beaucoup de détails. Donc Bezrat Hashem, voilà, on a quelques semaines dans lesquelles on va étudier toutes les halakhot liées autour du vol. Donc chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10 de Baba Kama.
Et là, le vol.
D'accord. Alors, tout d'abord maintenant, on va parler dans notre chapitre. Dans notre chapitre, on va parler de... pour faire le café.
Qu'est-ce qu'il y a?
Et là, le vol.
Non.
Il n'arrête pas. Hein. Bon, alors... Donc, j'étais en train d'expliquer que là maintenant, dans ce chapitre, on va parler des dinim du ganav. Est-ce que vous savez la différence entre le ganav et le gazlan? Ganav et gazlan, les deux, c'est deux termes pour dire un voleur.
Il y en a un, il a un flingue, et là, il y en a un, il a pas
de
temps.
C'est quoi la différence entre ganav et gazlan? La vérité, c'est que si on n'a pas la Torah, si on voit pas la référence dans la Torah, on ne peut pas trouver
le caché ou le vol évident.
Alors, ganav, celui qui va voler en cachette. Gazlan, c'est celui qui va voler devant tout le monde, qui a peur de personne. Et on verra qu'il y a des différences. C'est pas les mêmes halakhot, c'est pas les mêmes cas, c'est pas la même structure, le Bedi ne juge pas de la même manière. On dira beaucoup moins qu'il y a des circonstances atténuantes, parce qu'on va en parler aussi des circonstances atténuantes. C'est pas du tout le même registre, c'est pas la même chose.
Qu'est-ce que ça veut dire, voler devant tout le monde?
Ben, ça veut dire, voilà, hold up.
Ah, hold up, oui, d'accord.
Ouais. Il cherche pas à se cacher.
Oui.
D'après vous, c'est lequel le plus grave? Le ganav ou le gazlan?
Non,
celui qui colle la
celui
rue
qui se cache,
et le petit vol caché.
Celui qui se cache, celui qui se montre.
Dans
lequel il y a plus de risques?
Celui qui se cache, c'est le plus grave.
On verra. Il y a des détails pour lesquels celui qui se cache est plus grave. Et il y a des détails pour lesquels celui qui se montre est plus grave.
Pour comprendre l'école des voleurs.
Parce que, d'un côté, celui qui se montre, c'est plus grave, puisque il a même plus honte. L'autre, au moins, bon, il se cache, il dit bon, j'ai pas le choix, je veux voler. Mais d'un autre côté, le problème avec celui qui se cache, c'est que dès qu'il y a le moindre obstacle, il tue tout ce qui est autour de lui.
Mais ça peut être dangereux.
Non,
pas obligé.
Ah si. Celui qui fait un hold-up, il a peur de personne. Il n'a pas forcément tué, il a peur de personne.
Oui, mais attends, moi je sais quand on fait des inventaires dans les grandes boîtes, des fois on s'aperçoit qu'on a des troubions parce que c'est des tout petits vols, mais à répétition, sans arrêt, comment tu l'appelles celui-là?
Oh, ça c'est un petit ganave, ça. C'est...
Ah ben, c'est celui-là qui cause la ruine du monde.
C'est un mauvais voleur, ça. C'est pas volé celui-là.
Parce que c'est des vols imperceptibles. C'est celui de Noé, de l'époque.
D'accord.
De
Noé. Alors, donc maintenant.
C'est le cas.
Ok. Donc on a Ganav, d'accord. On a Ganav et Gazlan. Ok. Alors, on dit maintenant, commence la Mishnah. La Mishnah nous met directement dans le vif du sujet.
Il y a un sur.
Ah, très bien.
Merci.
Hein
à la
quel sérieux. Bon.
Merci beaucoup.
Oui,
Merouba, Mida Tashlume Kefel. Mimida Tashlume Arba Vachamisha. Bon. Alors, il y a encore autre chose avant de commencer la Mishnah. On sait qu'il y a ce qu'on appelle Tashlume Kefel et Tashlume Arba Vachamisha. D'accord? Dans Tashlume, on a le mot Tashlum. Tashlum, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer. Tashlume, ça veut dire payer. Rembourser, payer. Tashlumin, payer. Paiement, je paye. D'accord? On a Tashlume Kefel. Est-ce que vous savez ce que veut dire Kefel en hébreu? Kefel, kafoul, double, très bien. On a le paiement en double et Tashlume Arba Vachamisha. Alors Lelou Nishmat, Aziza, Bat, Turquia. Et on a le Tashlume Arba Vachamisha, ça veut dire lorsque le voleur devra payer 4 à 5 fois. Ok. Alors est-ce que vous savez, dans quel cas on paye 2 fois, dans quel cas on paye 4 à 5 fois? Et après on rentre dans la Mishnah. Allez, monsieur, on se réveille. Le voleur. D'accord, dans quel cas il va devoir rembourser 2 fois ce qu'il a volé, et dans quel cas il devra rembourser 4 à 5 fois ce qu'il a volé.
4 à 5 fois c'est gros bétail.
S'il a revendu.
Et 2 fois c'est
alors, oui.
La volaille, le menu.
Tu comptes 2 fois? Non, il y a 4 à 5 fois, il y a...
Deux fois si on l'attrape avec ce qu'il a volé.
Alors d'abord il y a un cas dans lequel il paye que ce qu'il a volé, pas 2 fois.
C'est quand il ramène lui-même.
Ça c'est quand il ramène lui-même. D'accord? Ok. Ouais. Maintenant, s'il s'est fait attraper, ça veut dire qu'il comptait pas Laurent, il s'est fait attraper par la police. Ouais. Donc c'est là combien il paye?
Deux fois.
Non, il s'est fait attraper.
Qu'il a volé.
Il s'est fait attraper. Bon, il comptait. Dans ce cas-là, combien il rembourse?
Deux fois.
Deux fois.
Mais c'est quoi?
D'accord.
Qu'est-ce qu'il
alors,
a volé?
En général, ça c'est en général. Par exemple, il a volé, une table, il rembourse deux tables. Maintenant, s'il a volé un animal, et que tavar ou machar, ça veut dire qu'il a tué cet animal, ou bien il a vendu, c'est-à-dire qu'il y a eu changement de propriété ou changement d'état, dans ce cas-là, il devra payer arba'a vachamisha. Des fois 4 fois, des fois 5 fois. Alors, c'est dans quel cas 4 fois, dans quel cas 5 fois?
Petit bétail. 4 fois, c'est le grand bétail?
Alors, 4 fois, c'est le petit bétail, et 5 fois, c'est le grand bétail.
Non.
Il est pénalisé.
Parce que comme il a pris...
Voilà. Non, le petit bétail, comme il a eu honte, parce qu'il a dû le porter, pour le pauvre... C'est un petit chien, il a eu honte pour devoir le porter. Donc, on lui dit, bon, au lieu de 5, on va te mettre ça à 4. On est d'accord? Bon, alors maintenant, pourquoi on parle de ça?
Un petit chien.
Oui, par exemple.
Et s'il a fait des hot dogs avec?
Alors, Merouba, Midat Tashlume Kefel, Midat Tashlume Arba Vachamisha. Donc si je vous pose la question maintenant, qu'est-ce qui vous paraît plus grave? Celui qui paye 4 à 5 fois ou celui qui paye 2 fois? Qu'est-ce que vous allez me répondre normalement? Celui qui paye 4 à 5 fois. Je viens de vous montrer qu'on a 3 catégories. Il y a celui qui paye, il a volé une table, il paye une table. Il y a celui qui a volé une table, il va rembourser 2 tables. Et il y a celui qui va voler un animal et qui va le rembourser 4 à 5 fois. On est d'accord? Donc a priori, le cas le plus grave, le cas le plus extrême, c'est celui qui paye 4 à 5 fois. La Mishnah veut nous dire le contraire. Elle veut dire non. Et toi, tu as l'impression comme ça que celui qui paye 4 à 5 fois, c'est le plus grave. Mais en vérité, il y a des cas de figure, dans lesquels, on appelle dans le jargon de la Gemara, Echitimtsa. Il y a des cas de figure dans lesquels, celui qui payera le double, d'accord, sera plus grave que celui qui paye 4 à 5 fois. On va citer tout de suite un exemple. Azizabat Turquia. Shemidat Tashlume Kefel. Nous dit la Mishnah la chose suivante. Elle nous dit, Shemidat Tashlume Kefel, lorsqu'on nous dit qu'il a remboursé le double, vous avez la page? Shemidat Tashlume Kefel. Ouais. Allez, on y va. Noheget, ben bedavar shiyeshbo roachaim, ou ben bedavar shiyeshbo roachaim. Tu dis la chose suivante. Tu dis d'abord, c'est très simple. Si tu me dis que payer 4 à 5 fois, c'est plus grave. C'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que celui qui paye 2 fois, il le payera dans tous les cas. Peu importe que ce soit quelque chose qui a roachaim, ça veut dire qu'il vit, c'est quelque chose qui ne vit pas. Peu importe qu'il a volé une table, un animal, peu importe, ou de l'argent, peu importe ce qu'il a volé. On va pas se poser la question, qu'est-ce qu'il a volé? Est-ce que ce qu'il a volé est vivant ou pas?
Pourquoi il y aura une distinction entre
Parce que dans la suite, il y aura une distinction. D'accord. Dans 4 et 5 fois, il y aura une distinction.
D'accord.
Là, dans le cas de Tashlume Kefel, il n'y a pas de distinction. Donc, Umida Tashlume Arba Vachamisha, Ena Noeget, Ela Beshor Vasebilvad. Alors que payer 4 et 5 fois, ça va s'appliquer seulement dans Arbaat, ça va s'appliquer seulement Beshor Vasebilvad. Ça veut dire s'il a volé Shor, c'est quoi Shor? C'est un bœuf, et c'est
un agneau.
Ça veut dire seulement dans du gros et menu bétail. Chez Neymar, comme c'est écrit, Ki gnov ish shor ose odvacho umcharo. Le gomer. Donc voilà ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah nous dit la chose suivante. Elle nous dit que, on a l'impression que payer 4 à 5 fois c'est plus grave. Mais en vérité, c'est pas vraiment plus grave. Puisque, en vérité, 4 à 5 fois tu vas les payer dans un cas assez particulier. Alors que payer 2 fois, payer le double lorsqu'il se fait attraper, ça sera dans tous les cas de figure, peu importe ce qu'il a volé. D'accord? Donc faut pas dire rapidement que payer 4 à 5 fois c'est plus grave. Ensuite, elle continue la Mishnah. Elle dit la chose suivante. Elle dit, En agonev achar aganav meshalem tashlume kefel. Bon. Puisqu'on parle de la chotte du voleur. Imaginez-vous que vous avez un voleur qui a volé quelque chose. Et ce voleur s'est fait lui-même voler.
Ça, c'est pas normal, d'accord, hein.
Bon, il s'est fait lui-même voler. Je sais pas comment ça s'est passé, mais il s'est fait lui-même voler.
Je proteste.
Alors, et il s'est fait attraper. Parce que le premier voleur est intelligent. Il va aller attaquer un justice, il va dire, oui, on m'a volé. Alors qu'en vérité, lui-même, il a volé. Mais on va l'attraper.
Le deuxième.
Par ricochet, peut-être qu'on l'attrapera le premier, mais en tout cas, on attrapera le deuxième. Bien sûr, entre eux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Sur le même objet?
Le même objet, oui.
Non, c'est pas transmissible.
Donc, on a envie de dire, tu me rembourses le double. Tu m'as volé, tu me rembourses le double. Même chez eux, il y a une loi.
Le vol est une acquisition.
Alors, monsieur, il me pose une question, il dit, c'est une très bonne question ce que vous posez. La Gemara explique quel est le fond de la question, parce que la Mishnah ne va pas nous dire des choses évidentes. Le fond de la question, c'est que le vol dans la Torah est considéré comme une acquisition.
Agonev, le galaf patour, non?
Non, mais avant d'en arriver là, le vol dans la Torah est considéré comme une acquisition. Donc, puisque même si on a eu deux voleurs, peu importe que si le propriétaire d'avant était un voleur, chaque vol est une acquisition. Donc, on a eu ici une personne, le deuxième voleur, qui a volé à une personne. Qu'est-ce qu'on en a à faire si c'était lui-même un voleur? Il y a eu quand même une acquisition. Donc on a eu changement de propriété. Donc s'il y a changement de propriété, il y a forcément une responsabilité. On est d'accord?
Pas forcément.
Pourquoi pas forcément?
Si qui a volé le bien qu'il a, ne lui appartient pas, il n'a pas compris.
Oui, c'est ce qu'il vient de dire, M. Bismuth. Je veux dire comme ça. Imaginez-vous que Dieu préserve, d'accord, j'ai volé le croissant de M. Bismuth. D'accord. Et que M. Rouven va me le voler.
On a faim, évidemment.
D'accord. Attendez, le croissant a changé de propriété deux fois. Et donc il a raison, il dit même si l'autre il a volé et moi je l'ai volé, ça change pas. La Torah normalement te dit que ça s'appelle du vol. Dans la théorie, ça s'appelle du vol. Il y a eu changement de propriété.
Est-ce que le deuxième il le vole parce qu'il sait que le premier l'a volé?
Oui.
Mais le bien qu'on a pris, il n'appartient pas à M. Bismuth, il appartient au nom de la personne.
Au moment où il est dans ma main, il n'appartient plus à M. Bismuth.
Non, s'il est marqué.
Bonne question. Alors, au moment où il est dans la main, il n'appartient plus à la preuve. D'accord? C'est que si je l'ai vendu par exemple, il n'appartient plus à M. Bismuth.
Il est marqué pourtant.
Il est marqué pourtant. Parce qu'il m'appartient à moi. Par contre, j'aurais lui remboursé l'argent, attention. J'aurais lui remboursé la valeur.
M. Bismuth avait un bien marqué. Un livre marqué au nom de.
Bien sûr, oui. Non, c'est moi qui ai volé, c'est moi le voleur, pas lui.
Vous avez volé. Un livre marqué à mon nom.
Oui,
ça me dérange pas.
Et lui, il vous le prend. Mais lui.
Non, moi je l'ai volé, j'ai volé son livre. D'accord, son livre est dans ma main. Même s'il a écrit son nom dessus, le fait que j'ai décidé de le prendre pour le voler, je viens de l'acquérir, il est à moi.
Ah ben,
mais par contre, je l'ai remboursé.
Oui. Parce que il n'y a pas de contrepartie.
Ça veut dire que 6 mois par exemple, après, je laisse dans la rue. Je dis, ah, bah si, je dis.
Si je le trouve, il est pas à vous.
Attendez, je laisse un couteau dans la rue, je vole un couteau, je laisse dans la rue. Il est pas à vous, il est à moi. D'accord, je vais aller. Le Bézine après, il va revenir à M. Bissut, il va dire, Monsieur Bissut, on a trouvé votre couteau, c'est marqué, il y a votre nom dessus. Il y a quelqu'un qui s'est blessé avec, vous devez rembourser. Le Dine, c'est qu'il n'est pas responsable, parce qu'il n'était plus propriétaire de l'objet à ce moment-là. C'est moi qui ai propriétaire de l'objet. Et c'est pour. D'où la question de la Mishnah. Qu'est-ce qui se passe si on a un voleur après un autre voleur? Étant donné qu'il y a eu changement de propriété, donc normalement, le deuxième voleur devrait rembourser le double, même chez eux, il devrait avoir la loi. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Elle nous dit En agonev achar aganav, meshalem tashlume kefel. Que celui qui vole après un voleur ne paye pas le double. Pourquoi il ne paye pas le double? Logiquement, il devrait payer le double. Pourquoi il ne paye pas le double? Ça, c'est la Gemara qui explique. Elle dit parce que c'est écrit dans la paracha Mishpatim, dans la paracha qui parle du vol, c'est écrit Vegunav mi bet aish. Et l'objet a été volé de la maison de l'homme.
Pas du voleur.
C'est-à-dire quoi de la maison de l'homme? De qui il va être volé alors? Chez qui il va être volé? Pourquoi tu dis de la maison de l'homme? Quand on dit de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'homme à qui ça appartient.
Le vrai homme.
Le vrai homme. Donc de là on comprend que le voleur d'un voleur, bien sûr qu'il doit rembourser ce qu'il a volé. D'accord? Mais il ne rembourse pas le double.
Donc ça vaut plus le coup de voler un voleur. C'est plus intéressant.
Mais c'est un peu plus difficile.
Mais c'est peut-être dangereux. C'est un truc de la mafia ou un
magasin. Le rotel.
Vaut mieux braquer des dealers que braquer une banque.
C'est ça le rôle. Vous pouvez l'ouvrir la porte. C'est bloqué là-bas?
Il paraît qu'il faut le laisser en couvert.
Non mais là-bas c'est bloqué aussi?
Ouais.
Là-bas aussi? Bah,
non,
c'est pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Hey, je reviens.
Alors.
C'est bloqué là-bas.
Voilà. Là-bas aussi?
Chut, bon. C'est pas là-bas moi ça.
D'accord. Alors on continue. Donc on dit comme ça. Donc, En agonev achar aganav, meshalem tashlume kefel. Celui qui vole après un voleur ne paye pas tashlume kefel, ne paye pas le double. D'accord?
Il rend juste le bien.
Velo a toveach o velo a mocher achar aganav, meshalem tashlume arba vachamisha. De la même manière, si le deuxième voleur a tué l'animal ou a vendu l'animal, donc il y a eu changement de propriété ou changement d'état, il ne payera pas 4 à 5 fois, parce qu'encore une fois, la même Torah qui nous a dit qu'il faut payer 4 à 5 fois, cette même Torah, à chaque fois, elle dit le mot « Veguna vibet ha-ish ». C'était volé de chez l'homme. C'est-à-dire que voleur d'un voleur, il ne rembourse pas le double. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça, c'est les bases de la halakha du vol. Après, on va rentrer un peu plus dans les détails.
Bon. Je sais pas pourquoi, mais bon.
On ne sait pas pourquoi. Non, pas forcément. Il y a quand même une logique.
Ouais.
Quand même une logique. Oui. La logique, elle est que étant donné que je me suis pas approprié l'objet dans des façons d'une manière conventionnelle, donc si je me le suis fait voler, on va pas appliquer les règles conventionnelles. Il y a une logique derrière. C'est pas.
T'en sais rien.
Le deuxième voleur, il.
Oui.
Il sait pas si raison, l'objet a été volé ou pas.
Ça veut dire que ce sera au deuxième voleur de prouver que moi aussi j'avais déjà volé l'objet. Tu as raison.
Ça veut dire qu'il a volé parce qu'il savait que moi je l'avais volé.
Non, on n'a pas dit ça. Non. Non, il a volé. L'arroseur arrosé. Vous connaissez.
Et voilà. La volée, donc lui, dans l'absolu, c'est un vrai voleur.
On s'en sort plus, parce que tu vas prendre ta voiture dans la rue.
Je sache que
tu n'avais pas ta voiture, c'est la mienne, parce que je te l'ai volée, mais je l'ai mis là.
Non, s'il le sait.
Non, j'ai pas dit ça. La question qu'on se pose, c'est pas est-ce que je rembourse.
C'est parce que toi tu l'as volé que lui l'a volé.
C'est est-ce que je suis pénalisé. C'est la question.
Ah, ça.
C'est la question. Pas est-ce que je rembourse. Bien sûr, je rembourse. Tout le monde doit rembourser. T'as volé, tu dois rembourser. La question c'est, est-ce que je suis pénalisé? Si je me suis fait attraper, si j'ai vendu, si j'ai... Là on te dit, tu ne peux pas être pénalisé quand t'as volé un objet volé. D'accord? Alors, Monsieur Saïd a dit, il a dit, on sait qu'à Gonev, il n'a gagné pas tour. Normalement, c'est celui qui vole du voleur, il est pas tour, il est exempté, c'est ça? Alors c'est une plaisanterie, hein, attention. D'accord. On va voir. Non, c'est pas une plaisanterie. Vous verrez qu'on va le trouver. C'est dans la Gmara Baba Kama. On va y arriver.
Il n'y a rien à payer, celui qui a volé au voleur.
J'ai pas dit ça.
Non, pas Tourmina Kefel.
D'accord.
Après, on voilà.
Exactement.
Ils ont oublié la fin de la phrase.
Les gens, ils disent à Gonev. Les gens, ils disent à Gonev, il n'a gagné pas tour. D'accord. Celui qui vole du voleur, c'est pas tour. Ils disent pas tour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le droit de voler.
Robin des Bois.
On va voir que c'est pas du tout ça.
J'ai volé aux riches pour donner aux pauvres.
Non, Robin des Bois, c'est pas la même chose. C'est que les riches avaient volé aux pauvres, donc il a volé aux riches pour rendre aux pauvres.
Eh oui.
Bon, il a voulu faire justice puisque personne faisait justice. C'est autre chose.
C'est pour Robin des Bois.
Non, j'ai pas dit que je suis pour, mais on m'a raconté l'histoire, c'est pas la même chose.
Robin des Bois.
Ganav al Pishnaïm. Ok, vous avez la Mishnah Bet, vous avez Mishnah?
Ouais.
J'ai pas dit ça.
Attends, excuse-moi. Une question bête. Je vais chez les boucheries, machin, truc. Je leur vole un bœuf. D'accord? Et ensuite, j'essaie d'un burger avec. Et après, je regrette.
Attendez, le bœuf, il est déjà mort.
Il est mort.
Donc ça y est, ça sera jamais 4 à 5 fois. Ça sera toujours le double. C'est fini.
Pourquoi?
Parce que.
Il a volé de la viande. On parle pas de
alors, le double. Le double.
Il a volé de la viande et c'est le qu'il a consommé.
Attendez, mais c'est pas un consommé.
C'est la question. Moi, il va arriver quelque part.
Quand j'engage un chômeur, un chevillard, un machin, etc., je dis, tu me fais 10 000 hamburgers. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, cette histoire. Puis je veux faire tchouva. Alors j'appelle les boucheries, machin. Je dis, tiens, je vais prendre ta cam. Mais tu me dois le salaire du... Je peux dire ça?
Alors ça, on y arrivera après. Mais bon, je refais la parole tout de suite. Messieurs, il y a ce qu'on appelle la takana que le Rami ont fait, la takana tachavim. Takana tachavim, c'est-à-dire ils ont instauré quelque chose pour aider les gens à faire tchouva. Normalement, la halakha est, quand Dieu préserve, on a volé un objet et qu'on a toujours l'objet en nature, on a l'obligation de le rendre. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la Gemara pose la question suivante, elle dit, si une personne a volé une poutre, et que cette poutre, d'accord, est le pilier de sa maison, et qu'un jour, il a décidé de faire teshuva, il va faire teshuva, donc il veut rendre, mais son état ne laissera jamais, on va dire, t'es malade ou quoi, tu vas rendre la poutre existe toujours. Donc pour rendre la poutre, tu vas devoir casser ta maison. Imagine l'argent que tu vas perdre. Alors les Khamim ont fait une takana. Et dans ce cas-là, dans des cas dans lesquels on arrive à prouver qu'on a une perte d'argent en rendant le bien volé, et dans le bien de tous, dans le bien de celui qui a été volé et de celui qui a volé. D'accord? Celui qui a volé qui va faire tes choses. Si, ça répond à votre question. Les Khamim ont dit que dans ce cas-là, quand on arrive à prouver qu'on va perdre beaucoup d'argent, on n'est pas obligé de rendre l'objet en nature. Mais attention, ça doit être validé par un Bet Din.
Attends, mais non, c'est pas ça.
Donc, dans votre histoire, très bien, dans votre histoire d'hamburger, il va dire, écoute, je garde l'hamburger, je garde la viande, mais je te rembourse la bête. C'est exactement ça ta canette à chavis.
C'est bizarre parce que dans le cas du bœuf,
je voulais les rendre, moi, l'hamburger, oui. Il dit,
tu rembourses. Il n'en veut pas tant.
Non,
il est à boucher.
Il voulait faire des brochettes.
Oui, mais si, le bœuf avait déjà été, on avait déjà fait la chuta au bœuf.
Oui,
très bien, oui.
Imagine pas que c'est l'occasion de les vendre, moi-même, on a fait rendre un peu les
de ça. Oui.
Je veux dire,
dommages collatéraux.
C'est dommage.
Donc ça, on n'en parle pas ici. Alors, Ganav à Pishnaïm. Ok. Alors maintenant, messieurs, on continue. Mishnabet. Ganav à Pishnaïm. Si une personne a volé devant deux témoins. D'accord. Pishnaïm. Al Pishnaïm, c'est-à-dire devant deux témoins. C'est bon, monsieur?
Au moins deux témoins.
Ah,
Al-Pishnaïm. S'il a volé avec deux témoins. Ça veut dire devant deux témoins. Vetavar ou Mahar Al-Piem. Et ces mêmes deux témoins l'ont suivi et ils confirment qu'ils l'ont vu faire la shrita de cet animal ou bien le vendre. Donc ils l'ont vu qu'il a vendu cet objet-là. Donc ça veut dire qu'il a été suivi par des témoins. Ok. Ou Al-Pishnaïm Acherim. Ou bien c'est deux autres témoins. C'est-à-dire qu'il y a deux témoins pour le vol et deux témoins pour
la vente.
D'accord, mais ça veut dire qu'il y a eu toujours des témoins. Ça veut dire qu'à chaque étape clé, il y a eu des témoins. Au moment du vol, il y a eu des témoins. Au moment de la vente, il y a eu des témoins.
On ne sait pas si c'est les mêmes animaux.
C'est pas forcément les mêmes témoins. Bonne question. On va y arriver. D'accord. Meshalem tashlume arba vachamisha. Meshalem tashlume arba vachamisha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il devra payer 4 et 5 fois. Alors, la Gemara pose la question, dit, mais c'est évident. Puisque de toute façon, il y a eu des témoins à chaque étape, c'est évident qu'on doit rembourser 4 à 5 fois. Alors, la Gemara explique et dit non, il y a un grand ridouche ici. Pourquoi? Parce que dans la paracha, qui nous parle des témoins,
y a pas de témoins.
C'est écrit Alpish Naïm Edim Yakum Davar. Alpish Naïm Edim Yakum Davar, je traduis. Ça veut dire qu'on devra se baser sur deux témoins pour Yakum Davar, pour faire un cas. Or là, pour former le cas, on a besoin de deux étapes. On a besoin du vol et on a besoin de la vente. D'accord, pour prendre l'exemple de la vente de la bête. Donc on a besoin de la vente et du vol. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a eu deux témoins sur la vente et deux témoins sur le vol?
Donc
les deux témoins ne témoignent plus sur Davar, ils ne témoignent plus sur un cas, ils témoignent sur Khatsi Davar, sur un demi-cas.
Oui.
Donc normalement, théoriquement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? C'est pas suffisant. C'est des témoins, mais c'est pas des témoins comme la Torah demande.
Voilà.
Parce que la Torah a bien dit, Alpish Laïm Edim Yakum Davar, qu'on doit se passer sur deux témoins pour former un cas. D'accord? Là vient le chidouche de la Mishnah pour te dire non. Pour te dire, c'est pas grave. On peut avoir plusieurs témoins qui vont former ensemble, donc, qui vont former ensemble un seul cas. Et qu'un témoin va compter sur l'autre. C'est ce qui va se passer ici. Ça veut dire qu'on va associer des témoignages. Ça existe ça dans le droit? Associer des témoignages?
C'est le jury, hein. C'est le jury,
évidemment.
Non.
Parce que là, c'est la seule technique que la Gemara utilise pour dire qu'on a le droit. Sinon, c'est pas possible. Normalement, il faut que...
En droit civil, on se pose même pas cette question.
Parce que, je sais pas comment c'est en droit civil. Mais dans la Torah, le juge doit montrer à la personne qui est juge, et lui dire, monsieur, voilà vos témoins. Voilà ceux qui vous ont vu, d'accord? Et voilà ceux qui valident que vous avez fait ça. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas des témoins qui vont valider tout le cas de A à Z. Il y a deux témoins sur la moitié du cas.
Dans une chaîne.
Attends, il y a une chaîne. Non, le deuxième cas, on l'a dit, ou bien c'est pas les mêmes témoins.
Il n'y a pas de question là.
C'est
bon. Il n'y a pas de question là-dessus.
Moi, je demande.
Il n'y a pas de question là-dessus. Franchement, dans la logique, il n'y a pas de question. À part que dans la Torah, il y a marqué Alpish Naïm Edim, c'est tout.
Alors, bonne question. Charlie pose la question. Il dit, a priori, il n'y a pas de question. C'est évident. Pourquoi la Torah se pose la question? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a la question de M. Bispute. M. Bispute a dit que si il y a des premiers témoins qui ont vu que l'objet a été volé, et après on a eu deux autres témoins qui ont vu que l'objet a été vendu, qui te dit que c'est le même objet?
Ah.
Ah oui.
Entre-temps,
il a été sûr que c'est un objet, mais qui te dit que c'est le même objet? Peut-être que c'est un autre objet encore, peut-être que le tien. Va savoir.
C'est encore un troisième vol.
Et oui.
Peut-être qu'il a été remboursé.
Parce que par définition, dès qu'on a perdu de vue l'objet, c'est pas ce qui a pu se passer.
Et le voleur, qu'est-ce qu'il dit?
D'accord. Et c'est là le chidouche de la Mishnah, de te dire, puisqu'on a vu la même personne voler, et qu'on a vu la même personne vendre un animal, et qu'a priori c'était un animal du même calibre, hein, bon, c'est... peut-être c'est un autre, peut-être, mais bon. D'accord.
C'est le même objet, il aurait très bien pu se rembourser.
On considère que c'est suffisant. Voilà. On le juge.
En droit, ça existe, ça fait seul une présomption, c'est-à-dire.
C'est exactement ça.
Attends, excuse-moi. Moi, maintenant, je suis le voleur. Je vole deux chèvres. Et quand je rentre, j'ai déjà deux ou trois chèvres chez moi.
Très bien.
Et je voulais pas les vendre, c'est des chèvres laitières, etc. Puis à la fin, je fais tchouva, je dis, allez, je vais les ramener, ces chèvres. Donc il a fait sa déclaration. D'accord? On m'a volé deux chaises. Ensuite, il y a des témoins qui m'ont vu, des chèvres. Ensuite, il y a des témoins qui m'avaient vu voler, mais ils m'ont pas vu ramener. Et à la fin, je prends mes deux chèvres à moi, et je vais marcher, je vais les vendre. Et ces témoins, ils vont dire, on a vu vendre deux chèvres. Et le tout premier, il va dire, oui, il va toucher alors qu'il a déjà été remboursé.
C'est des chaises laitières.
Alors, je vais me retrouver condamné.
Vous avez raison. C'est un bon casse-couille. C'est pour ça que nous dit la Mishnah. Normalement, on aurait dû dire. Alors, je vais expliquer. Je vais répondre à la question de M. Bispute. Sauf que ce que vous oubliez, d'accord? Il a posé une bonne question. Il a dit a priori, peut-être que les deuxièmes témoins qui ont vu que l'objet a été revendu, peut-être que c'était pas le même animal, va savoir. Peut-être, peut-être non, on a perdu la trace de l'animal, c'est fini, il est parti. D'accord? Alors, la réponse que la Gemara explique sur ça, c'est que c'est de la faute du voleur. Pourquoi? Parce que, il a pas acheté un objet, il a volé. Donc il s'est mis dans une situation bizarre. Après il dit oui, mais après je l'ai rendu, je l'ai volé. Mais c'est toi qui t'es mis dans une situation bizarre.
C'est pas net.
Donc tu payes. Tu comprends?
Même si j'ai voulu faire ça,
ben oui.
Tu n'aurais pas dû lui rendre.
Mais vous avez raison que c'est la seule raison pour laquelle on accepte une association de témoignages. Dans un cas dans lequel on n'est pas sûr que c'est le même animal. Pourquoi? Parce qu'on dit, écoute, tu as une situation bizarre, tu as volé, tu n'as pas commencé à faire le chacham maintenant, tu payes et c'est tout. D'accord? Ganav ou Mahar, Bashabat. Ah, oulala.
Avant, on comptait des quarts, des tiers, des huitièmes de preuves.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on découpait en fait la preuve.
Oui, bien sûr.
Savoir s'il y en arrivait.
Il faut les associer. Il faut s'assurer que c'est le même. Ils sont le même cas. Maintenant. Maintenant, on fait encore 5 minutes.
Tu t'approches de...
Ganav ou Machar Beshabbat. C'est bon? Alors, Ganav ou Machar Beshabbat, si une personne a volé et a vendu pendant Shabbat, et alors? Et alors, s'il a volé et vendu pendant Shabbat, qu'est-ce que ça change? Oui, allez. Réfléchissons. Ça change rien, qu'est-ce que ça change?
Il a profité qu'il soit à la synagogue pour lui voler.
5 minutes, c'est jusqu'à 8h30. Il n'est pas 8h30 encore là. Ah, ta montre, elle est pas à l'heure. Alors, très bien. C'est quoi le problème? Une personne a volé Shabbat. Il a volé et vendu pendant Shabbat. C'est quoi le problème? Très bien. Alors, c'est quoi le problème? Vas-y, madame Guy, dis-nous, c'est quoi le problème? Ah, bah, dis-nous, c'est quoi le problème? Vas-y.
Il y a une double peine.
Il est déjà Khayav Mita.
Pourquoi il est Khayav Mita?
Parce qu'il a vendu pendant Shabbat.
Et alors?
C'est très grave, Mandy.
Attends, pourquoi il est Khayav Mita?
Parce qu'il a transgressé le Shabbat, c'est ça?
Pourquoi il est Khayav Mita? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il était Mechalel Shabbat pendant, sur, devant
parce qu'il a vendu
devant deux témoins.
Pourquoi il est Khayav Mita? On est Khayav Mita quand on touche de l'argent Shabbat?
Ah bah, je sais pas, parce que...
Non, alors écoutez, apparemment, le cas ici, d'accord, c'est qu'il a sorti... monsieur. Apparemment, le cas ici, c'est que la personne a sorti cet objet dans le domaine public. Et donc, ça veut dire que à part le fait qu'il a volé, à part ça, et également, il a transgressé l'interdiction de Shabbat. Bon, et alors? Il y a eu des témoins qui l'ont prévenu.
Ah bon?
Les témoins qui l'ont prévenu, qui l'ont dit, attention, tu vas transgresser Shabbat, c'est très grave. Lui, il était en train de voler, il a écouté personne, il est parti voler.
Il peut voler, mais pas trop.
Bon. Le problème, c'est quoi? C'est que s'il a été prévenu que ce qu'il faisait, c'était interdit, il est Khayav Mita. D'accord? Il est Khayav Mita parce qu'il savait que ce qu'il faisait, donc il est Khayav Mita, c'est-à-dire qu'il doit être mis à mort. Donc, ça veut dire que, est-ce que chez nous, on peut avoir double peine? Double peine, ça veut dire qu'il va avoir, et Khayav Mita, ça veut dire, et qu'il va être, il va être passif de la peine de mort parce qu'il a transgressé Shabbat, et il devra rembourser l'animal. D'accord? Alors, est-ce qu'on a double peine chez nous? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Ganav ou Machar Beshabbat. Si une personne a volé et a vendu pendant Shabbat. Deuxième cas. On donne pas encore la halakha. Pour l'instant, on donne les cas. Ganav ou Machar la Avodazara. Si une personne a volé et vendu pour la Avodazara. D'accord? Pour la Avodazara, ça veut dire qu'il a vendu pour la Avodazara, donc c'est la même chose. Ça veut dire que, non seulement qu'il a volé, mais il y a encore une autre avérin qui s'est greffée à ça, le fait qu'il a fait la Avodazara. Autre cas. Ganav Vetavar Beyom Hakipurim. Si une personne a volé et a fait la shrita, Yom Kippourim, d'accord, le jour de Yom Kippour. Alors, c'est quoi la particularité de Yom Kippour? Explique la Gemara. La particularité de Yom Kippour, c'est que quand c'est Yom Kippour, on n'est pas Chayav Mita par le Beit Din, on est Chayav Mita que Bidé Shamayim par le ciel. D'accord, c'est ça la différence entre Yom Kippour et Shabbat. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas que je viens de citer ici, c'est quoi le point commun entre tous les cas? C'est que, il n'a pas seulement volé, il y a une autre Avera qui s'est greffée à son vol. C'est pas fini. Ganav, Michel Aviv, Vetavar ou Machar. Si une personne a volé à son père, donc par exemple un bœuf, etc. Bon. Ensuite, Vetavar ou Machar, et ensuite il a volé. Ensuite, pardon, il a fait la chrita de cet animal où il a vendu. Veacharkar, Metavi. Et après, son père est mort.
Le pauvre.
Non, mais attendez, non, c'est pas le pauvre, là.
Il a cumulé, là.
Non, il est pas cumulé.
Il peut même pas se repentir.
Si son père est mort, ça veut dire quoi? C'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a un héritage, donc il a hérité. Donc il a hérité de ce qu'il a volé.
Ah ouais, mais il a hérité après.
Non. Oui, il est où ce dispute? Son père est mort de tristesse. Ah oui, mais ce dispute nous aurait dit ça, là.
Pour hériter, il faut d'abord qu'il rembourse.
Après. Donc son père est mort, donc il fait partie de ses héritiers. Donc s'il a hérité, il a hérité aussi la créance de son fils, donc c'est lui-même. Donc on tourne en rond. On fait quoi?
C'est à lui, donc il a
une part au frère.
Ah, il y a les frères, très bien, bonne question.
Ah oui.
Il y a les frères, mais qui va dire oui, mais...
Il y a l'État.
Il y a l'État. Il y a le notaire qui veut sa part dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez bien. Ganav Vetavar, encore dernier cas. Après, on avance. Après, on donne la lacha. Ganav Vetavar, Vachakar Igdish. Autre cas. Vous avez le voleur, d'accord, qui a volé. Et ensuite, il a fait la shrita, donc ça veut dire qu'il doit rembourser 4 à 5 fois. Vachakar Igdish, et après... Igdish, il a donné au Beth Amikdash. C'est-à-dire que le gars, il a pris sa viande, il a donné à la synagogue. Voilà, tenez, prenez.
Manger.
Oui, je voulais pas dire ce cas, mais bon, ça me fait rappeler un peu ce cas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Mais c'est justement, il est où, M. Bismuth, vous êtes avec nous ou pas?
Non.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, bon, c'est bon, occupez-vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous ces cas, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de voler, on prend la propriété de l'objet. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, non, même, on va prendre le cas d'avant, par exemple. C'était, il a volé son père, et entre-temps, son père est mort. Oui, mais quand il a volé son père et il a eu son nom de propriété, il est devenu propriétaire. Donc, quelque part, il devient le créancier de son père, maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, on considère qu'il y a eu changement de propriété. Donc, c'est quoi, là, la, écoutez bien. Meshalem, tashlumi arba vachamisha. Il devra rembourser 4 à 5 fois. Ah, moi, pour moi, le cas qui m'impressionne le plus, c'est le cas de l'héritier. Ça veut dire qu'il devra rembourser 4 à 5 fois à son père qui est mort. Pourquoi? Puisqu'on considère qu'il y a eu changement de propriété.
Donc, il hérite plus.
Non, il hérite plus, mais il y a des frères. Il y a les frères aussi. On va dire, tu nous rembourses 4 à 5 fois, on se partage. Ok, on est 5 frères, vas-y, tu prends une part, tu nous donnes 4.
S'il est seul, il hérite
plus. D'accord? Il hérite plus, oui, potentiellement. Ça veut dire que dans tous les 4 cas qu'on a dit ici, c'est quoi le point commun dans tous les 4 cas qu'on a dit ici? Le point commun entre les 4 cas qu'on a dit, c'est qu'on considère qu'il y a eu changement de propriété, et puisqu'il y a eu changement de propriété, c'est fini. Même si après il va hériter par derrière, ou il a donné la synagogue par derrière, c'est pas nos affaires. Tu as volé, il y a eu changement de propriété, tu payes 4 à 5 fois, peu importe ce que tu en as fait après avec. Alors, il y a changement de propriété, dès qu'il y a Yehush Veshinui Reshut. Dès qu'il y a eu soit le propriétaire qui a abandonné, d'accord, soit Shinui Reshut, ça veut dire qu'il y a eu changement de propriété. C'est-à-dire changement de propriété, ça veut dire que, par exemple, on a changement d'état, ça veut dire que, par exemple, on a fait la Shrita, ou bien changement de propriété, ça veut dire que je l'ai vendu. Tant qu'il n'y a pas une de ces deux conditions, ou bien d'après certains avis, les deux conditions requises, on considère que l'objet appartient toujours au propriétaire initial. Mais que je suis son chômeur, je garde l'objet. D'accord. Alors, bon, on s'arrête ici, on continuera la semaine prochaine. S'il est... Oui. Non, c'était 4 cas différents, là.
Il rembourse à son père, à titre posthume, et il hérite.
Ah, vous voulez dire, s'il était, il a hérité, et il a donné au Sébat Amikdash.
Non, il a dit, est-ce que c'est... Ce remboursement qui fait
bon.
Ça dépend de...
Oui. Bon. C'est fini. Oui. Il récupère tout seul. C'est... Il se rembourse à lui. Pourquoi Beth Amikdash? Ah non. Non. Non, c'est au propriétaire qu'on rembourse. Pas au Beth Amikdash. C'est son père. Là, il paie rien dans ce cas-là. Mais le père il est mort. On va juste faire qu'il dit je suis grave la cache sur la mer à 5 jours de quoi 5 jours de